C'est quoi être un ingénieur ? C'est la question que je me pose depuis bientôt 5 ans. 5 ans que je fais mes études à l'INSA, 5 ans que chaque jour, j'en apprends un peu plus sur ce mot si particulier. Pourtant, c'est comme si j'avais raté quelque chose. Dans 6 mois, je vais être diplômé et j'ai l'impression de n'avoir compris qu'un dixième de sa définition. C'est pourquoi j'ai décidé de partir à la rencontre d'anciens étudiants, de chercheurs, de professeurs, bref, de tous ceux qui pourraient m'éclairer de leur expérience sur ce métier qui m'attend demain. Bonsoir à tous, je m'appelle Adrien et il me reste 6 mois pour donner un sens au mot « ingénieur ».
Même quand on est un expert d'un domaine, on n'est pas un expert dans un couloir très très restreint. C'est pour ça qu'on se retrouve avoir des ingénieurs qui ont fait des études, par exemple, de génie électrique au départ ou d'informatique, et qui se retrouvent à faire du business, du commerce, du management, parce que leur vue systémique les rend légitimes pour embrasser toute cette palette de métiers à l'intérieur desquels ils vont amener une compréhension globale de la manière dont les choses s'emboîtent les unes par rapport aux autres. C'est ce que moi je retiens et c'est ce qui me passionne.
Ça y est, nous y voilà. Notre premier ingénieur à interviewer. J'ai tant de questions à lui poser. Mais par quoi est-ce que je vais commencer ? C'est quoi ? Il y a une question qui me taraude depuis le début. Depuis le début, on me dit que je vais sûrement finir manager à un moment dans ma carrière, à gérer une équipe. Mais il y a un truc que je comprends pas. Ça fait des mois que je me fais des calculs d'intégrale triple, des dérivés d'endomorphisme, que je calcule les séries de Fourier en tout va. Mais ça va vraiment m'être utile pour gérer une équipe ? Et est-ce que je vais être prêt pour tout ça ? Comment est-ce qu'on y arrive là ? C'est quelque chose qui m'échappe un peu. Et se pose même la question des ingénieurs commerciaux. Si j'ai fait une école d'ingénieur, est-ce que c'est vraiment adapté pour faire du commercial ? Et la technique, je vais finir par en avoir ? Pour répondre à ces questions, je me suis tourné vers Kodjo Akbenou. Kodjo travaille chez HPE, la branche business de chez HP, en tant que Account Delivery Manager. Ouais, moi la première fois que j'ai entendu ça, j'ai pas vraiment compris de quoi il s'agissait. De ce que j'ai compris, c'est celui qui est chargé de la livraison au client. Mais toutes les questions sur la technique dans tout ça reviennent à la charge. Kodjo a été un amour parce qu'il a su m'expliquer et vulgariser tout ça, notamment sur son parcours, comment on y arrive et qu'est-ce que ça implique de faire du management, de faire du commercial. Mais enfin, je vais pas refaire tout l'épisode, alors du coup, je vais simplement lui laisser la parole et j'espère que ça vous permettra, à vous aussi, de répondre à cette question sur c'est quoi cette forme d'ingénierie ?
Première question, la plus simple, comment ça va aujourd'hui ?
Aujourd'hui, ça va bien. Ouais. Malgré la pluie, là aujourd'hui le temps est un peu gris à Lyon, mais ça va.
Ok, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui es-tu ?
Alors je suis un père de famille, récemment cinquantenaire, depuis peu, ingénieur INSA de Lyon, donc je suis un vieil ingénieur puisque je suis sorti en 94 de génie électrique. Et aujourd'hui, je travaille chez un constructeur informatique qui s'appelle Hewlett-Packard Enterprise. Et j'ai deux enfants, j'habite à Villeurbanne. Je suis resté dans la ville où j'ai fait mes études, après être parti et revenu.
Et aujourd'hui, tu t'y plais ?
Et je m'y plais toujours.
Super. Alors, du coup, tu disais que tu travailles chez... Donc, c'est HPE, c'est ça, l'entreprise ?
HPE, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi cette actualité, Hewlett-Packard, c'était un groupe qui incluait tout un tas d'activités autour de la fabrication d'ordinateurs, d'imprimantes et tout un tas d'autres équipements. Et HPE s'est séparé en deux. Il y a une partie qui est restée HP, qui fabrique toujours des PC, donc des ordinateurs de bureau et des imprimantes. Et la partie enterprise, c'est la fabrication plutôt de serveurs, d'équipements de stockage, de réseaux et tous les services aux entreprises qui vont autour de ces équipements. Donc aujourd'hui, HPE, c'est une boîte bien distincte du HP qu'on peut voir à la Fnac, par exemple.
C'est un peu la partie B2B d'HP anciennement, c'est ça ?
Alors, l'autre HP aussi fait du B2B, puisque les ordinateurs de bureau et des imprimantes, on en vend aussi aux entreprises. C'est par contre la partie cachée. C'est-à-dire que ce que fait HP Inc., puisque l'autre entité s'appelle HP Inc., se voit, puisque ce sont des ordinateurs qu'on voit sur les bureaux, les imprimantes, on les voit. Et la partie qu'on fait, nous, ne se voit pas, puisqu'elle est dans les data centers.
Ok. Alors, toi, ton métier aujourd'hui, donc à HPE, c'est quoi exactement ? Quel est ton rôle dans cette entreprise ? en tant
Alors,
qu'ingénieur?
j'ai plusieurs métiers. Alors, c'est aussi une caractéristique des métiers d'ingénieur, c'est que finalement, on a une fiche de poste et puis on a à l'intérieur de cette fiche de poste plusieurs métiers. Donc là, j'en ai au moins deux officiels. Le plus important, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon Account Delivery Manager. Donc, Account Delivery Manager, en fait, je suis, en traduisant en français, chargé de clientèle. Mon
OK.
rôle au sein de l'organisation HP, c'est de suivre des contrats de service, essentiellement des services de maintenance, sur des infrastructures dans des grands comptes. Donc, moi, j'ai des grands comptes de plusieurs dizaines de milliers de salariés pour le plus grand d'entre eux. Et mon objectif, en fait, c'est de faire en sorte que le contrat de service que le client a signé avec HPE soit fourni de la manière la plus fluide possible et de gérer tous les aléas qui peuvent survenir depuis des problématiques de déclaration, d'inventaire qui ne sont pas toujours justes, jusqu'à des problématiques de ressources, d'expertise sur des problèmes très pointus que le client peut rencontrer dans l'utilisation de ses machines ou de ses logiciels.
Mais du coup, tu n'es pas sur de la partie démarchage clientèle, c'est-à-dire que tu as le client qui est venu à l'entreprise et toi, tu es vraiment sur la partie technique. Tu fais le lien
Alors,
entre la technique et le client
oui, donc je suis effectivement pas sur la partie démarchage. Donc, dans le cycle de vie de l'activité, hein, de notre business, on a la partie avant-vente et la partie business développement. Donc, eux, ils démarchent les clients, managés ou coordonnés par un commercial qui est en charge de gérer la relation avec le client, le compte client. Et une fois qu'ils ont signé une affaire, s'il y a des contrats de maintenance d'une certaine dimension, ça passe dans mon entité. Donc ça arrive chez moi. Et moi, je suis après-vente. Donc mon rôle, il se situe plus dans... Je suis l'équivalent d'un chef de projet, mais mon projet n'est pas un projet éphémère où on irait par exemple installer une nouvelle infrastructure chez un client. Mon projet à moi, c'est un contrat de maintenance qui est au long cours. Ce sont des contrats sur plusieurs années. Sur lesquels régulièrement on se voit avec le client pour faire le point de l'activité, les incidents, les différents sujets de fond qui permettraient de mieux tirer parti des infrastructures en place. Et puis j'embarque derrière moi toute une équipe d'experts techniques qui vont aller apporter du conseil au client pour mieux utiliser son infrastructure.
C'est intéressant ce que tu dis sur le fait que ce soit sur presque plusieurs années d'ailleurs en fait de contrat. Comment ça se passe? C'est pas comment tu gères en fait le fait d'avoir des contrats qui sont assez long terme? Est-ce que vous avez des projets qui sont plus courts aussi ou est-ce que c'est toujours dans cette idée de maintenance à long terme avec les clients
En fait, on parle de grand compte. Dans un grand compte, il y a toujours de l'activité. Donc, une fois que la relation est établie autour, on va dire, d'un contrat principal, il y a toujours de l'activité nouvelle. Donc, des nouvelles installations, des migrations, des déménagements. Donc, cette vie-là, je la gère également, puisque je suis en relation avec des chefs de projet qui régulièrement vont piloter l'installation de nouvelles machines. Et ces machines-là vont rentrer dans le contrat de maintenance. Donc, je vais travailler aussi avec toute la structure back-office, donc tous les gens qui font de l'administratif chez nous, pour m'assurer que les contrats sont bien rentrés dans les systèmes avec les bons niveaux de service et que, quelque part, les process qui vont permettre de dépanner le client en cas d'incident ou de lui amener le conseil qu'il demande autour de ses machines, que tous ces process soient fluides. Donc, je gère vraiment la relation avec le client autour d'un contrat, mais avec toute l'activité complémentaire qui vient se greffer par-dessus.
D'accord. Ce que je te propose, c'est qu'on essaie de voir un peu, parce que là maintenant on comprend mieux ton métier, d'un point de vue pratique, comment ça se passe vraiment. Est-ce que tu serais capable de me donner en gros une journée type un peu de ce que tu fais ou des idées d'action qui se passent dans ton métier?
Alors, je vais te décrire la journée de demain, par exemple.
Ouais, ça marche.
Donc, demain matin, j'ai des réunions. Alors, j'appartiens à un grand groupe. Donc, dans un grand groupe, la problématique qu'on a, c'est une problématique de coordination qui nécessite souvent des réunions. Alors, aujourd'hui, avec les outils de conférence, la plupart des réunions se tiennent en ligne, mais c'est quand même assez chronophage dans une semaine. Donc, dans une journée type, un tiers de ma journée est consacré à des réunions essentiellement de coordination sur des sujets. Par exemple, demain, alors je peux te dire précisément ce que j'ai dans mon agenda pour la journée de demain. J'ai une réunion, par exemple, pour travailler sur la migration de reporting sur l'activité de contrat. Donc, on a des reports que j'utilise actuellement qui vont être changés. Et les personnes qui font ce changement ont besoin de consulter la base, donc le terrain, pour savoir si les changements qu'ils vont apporter sont toujours de nature à nous permettre de délivrer le service à nos clients, par exemple. Et puis, en début d'après-midi, j'ai un comité de pilotage. Donc, un comité de pilotage, c'est quelque chose qui structure l'activité de suivi clientèle. J'ai une réunion donc avec mon client pour lui rendre compte de toute l'activité qui s'est passée sur le mois écoulé.
Ok, c'est faire le point sur ce qui s'est déjà fait et ce qui va venir, en fait.
Exactement. Donc, le comité pilotage, on revoit en gros les faits marquants. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a eu des points chauds, des escalades? Ce qu'on appelle une escalade dans notre jargon, c'est quand, à un moment donné, le client nous a posé une question ou nous a signalé une panne et qu'on a été incapable de dépanner dans les délais parce que on n'avait pas l'expertise ou la pièce détachée n'est pas arrivée à temps. Des problématiques, par exemple, que je dois gérer, c'est en ce moment, avec la pénurie de composants électroniques, on a de plus en plus de mal à avoir les pièces détachées pour la maintenance dans les délais. Et donc, quand cette situation arrive, il faut gérer aussi l'insatisfaction du client, parce que un client, il a un contrat, il a des engagements de délai de réparation, et quelque part, on ne respecte pas ces engagements, donc il faut arriver à se justifier. Comme c'est un contexte mondial, les clients sont compréhensifs, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, et puis il faut quand même faire amende honorable et proposer des solutions de repli. Donc ça fait partie des activités que je fais au quotidien et sur lesquelles je vais devoir rendre compte demain à mon client.
Oui, donc tu es vraiment à mi-chemin en fait entre le besoin du client, les capacités de l'entreprise, le savoir-faire technique aussi de tes équipes.
Tout à fait.
Et de concilier tout ça en fait. Donc c'est toi qui gères cette harmonisation en fait dont tu parlais tout à l'heure au niveau de... Tu parlais beaucoup de réunions d'harmonisation, tu es en plein dedans en fait, c'est toi qui gères.
Absolument. Ouais. Je donne encore un exemple. Chez le client que je dois voir demain, enfin c'est plutôt une réunion en ligne, mais le client avec qui on a une réunion demain, on a des problématiques sur une solution qui est assez instable parce que c'est une solution qui est nouvelle, qui est arrivée sur le marché il y a un an, un peu plus d'un an, et qui a mis un peu de temps à se stabiliser. Donc, aujourd'hui, la solution elle tourne. C'est un logiciel qui tourne sur une collection de matériel avec des bases de données big data, donc des choses un peu avant-gardistes. Et là, sur ces solutions-là, on a des experts qui sont très pointus et qui sont très demandés. Donc, pour arriver à les mobiliser sur une problématique, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Et donc là, demain, je vais pouvoir annoncer une bonne nouvelle à mon client, par exemple, puisque j'ai réussi à avoir du temps homme d'un expert pour pouvoir l'aider à améliorer le fonctionnement et à stabiliser sa solution. Typiquement, super, ça fait partie des choses, des bonnes nouvelles que je vais pouvoir annoncer demain. En contrepartie de ça, on a aussi des fois des mauvaises nouvelles, comme par exemple, en ce moment, on est en train, chez ce même client, on est en train de déployer une solution très complexe, et pour lesquels la pénurie de composants matériels a provoqué des décalages importants sur l'installation de l'infrastructure. Et donc, ça fait partie aussi des mauvaises nouvelles qu'on annonce lors des comités de pilotage et sur lesquels on se prend en pleine face le mécontentement du client. Mais quelque part, le mécontentement, je représente l'entreprise aussi. C'est l'entreprise qui est face à un client à travers moi sur ce genre de réunion.
Bah quelque part, ça montre aussi que malgré, avec des événements comme une pandémie mondiale, il y a quand même possibilité de rebondir et de proposer des solutions à son client, même si ce n'est pas dans l'immédiat, en fait. Tu as toujours une solution pour rebondir, en fait, au final.
Bien sûr. Nous, l'avantage de travailler chez Hewlett-Packard Enterprise, c'est qu'on a un grand groupe. Donc, un grand groupe a beaucoup de moyens et surtout a des moyens d'arbitrage qui permettent de gérer des urgences. Donc, si on a affaire à des situations vraiment urgentes, on sait déshabiller Pierre pour habiller Jacques. Bon, je caricature un peu, mais on sait se débrouiller pour arriver à, malgré tout, à faire face aux urgences de nos clients.
On a discuté un petit peu par mail avant de faire cet échange. Et il y a une info que tu m'as donnée qui, moi, m'a marqué. C'est, tu m'as dit, il y a environ 70% des mails que j'écris qui sont en anglais et 20% des réunions téléphoniques qui sont aussi en anglais. C'est vraiment une part importante de ton métier, du coup, parce que pour le côté international.
Bien sûr. Alors, moi, c'est paradoxal parce que je gère des comptes franco-français.
Ouais.
Mais la plupart de mon activité est en anglais. Pourquoi? Parce qu'on est un groupe américain et international. Bon, américain, c'est une chose, mais surtout international. International dans le mode d'organisation. Je te donne un exemple. En ce moment, on est en pleine période de renouvellement de certains contrats de maintenance. Et donc, les équipes back-office qui traitent toute la partie administrative du renouvellement sont basées en Europe de l'Est ou en Inde. Donc, ces gens-là, il y en a quelques-uns en Europe de l'Est qui parlent français, mais de temps en temps, eux-mêmes interagissent avec les Indiens qui, eux, ne parlent que anglais.
Oui.
Donc, à un moment donné, il faut travailler en anglais. Ce matin, à 9h, j'avais une réunion avec un expert technique et des personnes en Inde pour pouvoir évaluer la faisabilité d'une solution qu'on doit apporter à un client. Typiquement, ce genre de réunion est en anglais.
Oui.
Après, l'autre situation, ce sont des réunions vers des francophones, mais dont on se dit que potentiellement elles peuvent être transmises à un anglophone. Parce que je m'adresse, par exemple, en Tunisie, on a notre centre de support le plus important pour la plaque francophone. Et quand je m'adresse à mes collègues tunisiens, je m'adresse à l'oral en français, mais à l'écrit, je m'adresse en anglais parce que je sais que eux derrière travaillent aussi en communauté avec des gens aux US, des gens en Allemagne ou des gens en Inde.
Donc, oui, on revient sur ce problème d'harmonisation, en fait, de fait. C'est-à-dire que tu parles en français, mais le compte-rendu devra être en anglais parce que ça circule derrière.
Tout à fait.
Ok, je commence à mieux voir ton métier. Je te propose qu'on commence doucement à passer à la partie ingénieur, au sens large.
Oui.
Alors, tu y as déjà un peu répondu par mail, mais je l'ai lu en diagonale pour que tu puisses encore me surprendre. Est-ce que tu pourrais me donner 3 points négatif dans ton métier d'ingénieur, les 3 éléments qui font te dire que ce métier ne serait pas fait pour moi, si un étudiant les entendrait aujourd'hui.
3 points négatifs. En fait, dans le métier d'ingénieur, il y a une chose qui est vraiment compliquée, c'est toute la phase comment dire ? Quand on a une idée, quand on a un projet, une initiative, il y a une phase qui consiste à vaincre toutes les résistances. Et parmi ces résistances, il y en a qui sont justifiées, il faut quand même convaincre, il faut se donner le temps et les moyens de convaincre ses collègues, et notamment les décideurs, de la légitimité de l'idée qu'on amène. Mais il y a aussi une phase de résistance qui est importante, qui est assez lourde, qui consiste à passer des barrières sur des process déjà établis, des façons de travailler qui sont ancrées dans les têtes depuis très très longtemps. Et finalement, pour des mauvaises raisons, les gens s'opposent à l'idée qu'on emmène ou aux initiatives qu'on veut mener. Et arriver à convaincre des gens qui, par principe, sont ancrés sur leurs habitudes, ça, c'est quelque chose qui est compliqué.
Ouais.
Et c'est d'autant plus compliqué qu'on est un jeune ingénieur. Alors moi, aujourd'hui, à mon âge, j'arrive à anticiper ça et à le gérer. Mais quand j'étais jeune ingénieur, c'est quelque chose qui était très frustrant. Parce que
réussir à amener ses idées.
Eh oui, on se dit, mais c'est quoi toute cette lourdeur? Finalement, tous ces gens n'ont pas d'argument pour me dire que mon idée est mauvaise, mais leur seul argument, c'est qu'ils ont toujours fait comme ça et qu'ils n'ont pas envie de changer. Voilà.
T'aurais un conseil à donner peut-être pour réussir à changer du coup avant
Bien sûr. Le meilleur conseil, c'est de se mettre à la place des gens. L'être humain n'aime pas le changement, par principe. Il y a des raisons à ça. Bon, le changement, c'est de l'inconfort. Et puis, des fois, on a des choses qui sont établies, qui fonctionnent à notre échelle, à une échelle individuelle. Et on ne comprend pas pourquoi il faudrait les remettre en cause. Parce que, à un moment donné, la remise en cause, c'est aussi un risque. Donc, la meilleure façon de contourner cet écueil, c'est d'aller comprendre ce que les gens perçoivent comme résistance au changement, comme risque. Comme frayeur, inquiétude par rapport à cette nouvelle idée. Et après, il y a aussi quelque chose qui peut être ancré dans les têtes, c'est que les petits jeunes qui arrivent, ils n'ont pas le vécu, et donc ils amènent des idées qui ne sont pas faisables. Et bien, à un moment donné, il faut aussi challenger les gens, il faut que les gens qu'on essaie de convaincre nous démontrent que notre idée n'est pas faisable, il faut qu'ils avancent des arguments, il faut arriver à confronter ces idées. Et puis des fois, on amène des idées qui effectivement sont un peu naïves, parce qu'on n'a pas tout le vécu, mais il faut accepter de recevoir aussi les critiques ou les conseils des personnes qui sont plus expérimentées. Et dans cet échange-là, finalement, on arrive à tirer tout le monde vers le haut et vers la nouveauté.
Ok. Un deuxième peut-être point négatif dans ton métier ?
Alors, le deuxième point négatif, mais là, c'est vraiment lié aux grosses structures comme la mienne, des boîtes de plusieurs dizaines de milliers de salariés dans plusieurs pays, c'est la lourdeur des processus. Pour
L'harmonisation dont tu parlais tout à l'heure.
l'harmonisation et la lourdeur, c'est-à-dire le temps passé à faire des choses qui, en tout cas à mon échelle à moi, ne sont pas productives.
OK.
Parce que je dois accéder à une certaine ressource, mais pour pouvoir y accéder, il faut que je passe par un certain nombre de choses. Je vais donner un exemple. Là, on a rentré une affaire, donc sur un nouveau contrat, et ce contrat, il s'agit de le rentrer dans les systèmes pour pouvoir déclencher la production du service. Comme c'est un contrat d'une nature un peu nouvelle, les gens ne sont pas très familiers du processus pour saisir ce contrat de la bonne façon dans les systèmes. Et donc, la difficulté, c'est d'identifier la personne qui a l'expertise. Et ça, c'est des dizaines et des dizaines d'échanges de mails, et à chaque fois, chaque personne connaît un petit bout du problème, mais n'a pas la vue d'ensemble de la problématique. Et ça fait des allers-retours incessants qui finalement rallongent le délai de saisie d'un contrat qui pourrait aller très très vite si on se donnait les moyens d'avoir une meilleure diffusion de l'information, de la connaissance sur
Sur
ces
quelque
nouveaux
chose qui pourrait être
process.
très simple, en fait.
Voilà, exactement. Donc ça c'est des choses au quotidien qui sont pesantes parce que c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est quand même le quotidien dans les très grandes structures. Qu'on n'a pas dans des boîtes plus petites parce que moi j'ai été dans des boîtes un peu plus de taille plus petite où là les choses vont beaucoup plus vite. On a beaucoup moins de moyens. Ça, c'est un peu le pendant des petites boîtes, c'est qu'on a moins de moyens, on bricole un peu avec des bouts de ficelle, mais par contre, quand on a décidé de faire quelque chose, on le fait et on va beaucoup, beaucoup plus vite.
Ok. Et du coup, maintenant qu'on voit ces points négatifs, est-ce qu'à l'inverse, il y a des points positifs? Ou quand un étudiant les entendrait, il dirait, Oh, mais ce métier, il est fait pour moi.
Alors, sur le métier d'ingénieur, le premier point positif, c'est quand même la vue systémique des choses. C'est ce que moi je retiens et c'est ce qui me passionne. C'est-à-dire que même quand on est un expert d'un domaine, on n'est pas un expert dans un couloir très très restreint. On a toujours cette prise de recul et cette vue à 360 degrés de comment notre domaine d'expertise s'emboîte dans les autres. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît dans le métier d'ingénieur. C'est pour ça qu'on se retrouve avoir finalement des ingénieurs qui ont fait des études, par exemple, de génie électrique au départ ou d'informatique, et qui se retrouvent à faire du business, du commerce, du management, de la chefferie de projet, parce que leur vue systémique les rend légitimes pour embrasser toute cette palette de métiers à l'intérieur desquels ils vont amener une compréhension globale de la manière dont les choses s'emboîtent les unes par rapport aux autres. Ce qui n'est pas vrai dans d'autres types de formations où on a affaire à des gens beaucoup plus pointus, plus restreints aussi dans leur champ d'intervention.
Oui,
Donc
qui
moi,
vont être très
ce qui me
très forts
plaît,
sur un point en particulier, mais
exactement.
vraiment dans ce domaine, alors que l'ingénieur, de ce que tu as l'air de dire, c'est plus global en fait,
C'est plus
une
global.
adaptabilité.
Exactement. Moi, par exemple, dans mon métier au quotidien, je gère une relation client. Donc, ça veut dire que je m'assure que des process sont en place, je gère la communication vers un client, je lui rends compte au travers du reporting, et puis je gère des escalades, des situations de crise. Mais au quotidien, j'interagis avec des commerciaux, avec des managers à tous les niveaux de la hiérarchie, avec des gens qui sont quelque part en back-office dans des pays étrangers et qui définissent des process ou qui mettent en œuvre des outils. J'interagis énormément avec des techniciens. Et les techniciens, je suis loin d'être un expert de toutes les technologies qu'on embarque chez nos clients. Mais par
Normal.
contre, j'ai le bagage, grâce à mon cursus d'ingénieur et à mon expérience, j'ai le bagage technique pour comprendre les problématiques. C'est-à-dire, quand je discute avec un technicien, même si je ne comprends pas techniquement comment ça fonctionne, je comprends les enjeux, je comprends ses difficultés et je peux l'orienter même sur des domaines sur lesquels je n'ai aucune expertise parce que j'ai cette vue systémique, j'ai cette vue système de la manière dont sa technique à lui va s'emboîter dans le tout, le service global qu'on doit rendre à notre client.
Bah, typiquement, si on prend l'exemple de la pénurie de composants dont tu parlais, tu sais pas forcément comment marche spécifiquement la carte dont tu as besoin le client,
Non.
mais tu comprends le problème qu'il y a derrière bah, la pénurie, avec quel type de composants peut y avoir dedans, etc., si je comprends bien.
Tout à fait. Bah, typiquement sur la pénurie de composants, c'est quelque chose qui a été assez expliqué hein, dans les médias. C'est qu'à un moment donné, on a fermé les usines à Taïwan, en Chine, etc., pour les questions de Covid, tout le monde était confiné, il y avait moins de demandes. Et puis au moment où on redémarre une usine, bah, ça fait un gros goulot d'étranglement puisque tout le monde redémarre en même temps. Tout le monde demande les mêmes composants en même temps. Et il y a une limitation physique, c'est la capacité de production. Quand on fabrique des barrettes mémoire, à un moment donné, on en fabrique, je sais pas, 1 million par jour. Et pour en fabriquer 2 millions, il faudrait doubler la taille de l'usine. Et ça ne se fait pas en claquement des doigts. Donc, à un moment donné, on est obligé de gérer cette pénurie. Et ça va prendre au moins l'année 2022 pour arriver à retrouver une situation normale. Donc ça, ce sont des choses aussi, dans mon rôle, c'est des choses que je me dois d'expliquer à mes clients parce que bon, les clients ne comprennent pas qu'un grand constructeur comme HP puisse être bloqué sur la livraison de composants si banales que des barrettes mémoire.
Oui, mais donc tu as aussi un côté vulgarisation dans ton métier au final.
Exactement, d'expliquer. La pédagogie fait partie intégrante de mon rôle et aussi de ma culture. C'est-à-dire que quand on est un ingénieur, on doit être aussi capable d'expliquer les choses avec un langage simple, que tout le monde peut comprendre.
Ok. Tu vois un deuxième point positif, peut-être ?
Alors, le deuxième point positif, c'est le sentiment d'appartenir quelque part à une communauté. C'est-à-dire qu'on se reconnaît entre ingénieurs. Je vois bien dans mon métier, il y a des gens qui viennent d'écoles de commerce, il y a des gens qui ont fait des écoles de management, et puis il y a des ingénieurs. D'ailleurs, ce n'est pas forcément lié au poste qu'ils occupent, hein, parce que même dans les commerciaux, avec qui je travaille, il y a énormément d'ingénieurs. Mais on se reconnaît par la façon dont on aborde des problèmes, par le vocabulaire qu'on peut utiliser pour décrire les situations. Et puis, on se reconnaît aussi entre ingénieurs INSA, plus particulièrement, parce que, étant basé à Lyon, je croise beaucoup de gens qui ont fait leurs études à l'INSA de Lyon, qui sont restés à Lyon, et puis qui sont employés dans des boîtes implantées en région lyonnaise. Donc, ce côté un peu d'appartenance à une communauté de métiers, de cursus, c'est intéressant.
Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères ingénieur ? Et si oui, ça t'a pris combien de temps avant que tu te sentes légitime de dire « je suis un ingénieur » ? Et sinon, pourquoi ?
Alors, c'est marrant cette question. En fait, au début de ma carrière, je me considère ingénieur simplement parce que j'avais un diplôme d'ingénieur. Donc, la question ne se posait même pas, en fait. Je me présentais comme ingénieur parce que c'était marqué sur mon CV et sur mon diplôme. Au bout de quelques temps, j'ai quitté la technique. Alors, c'est vrai que quand on est jeune diplômé, on assimile souvent le métier d'ingénieur à une notion d'expertise technique. Ouais. Et donc, comme tout le monde, comme beaucoup de gens, j'ai fait de la technique au début, j'ai fait du développement logiciel. Et puis, au fil des années, je me suis orienté vers le business. Et quand je suis passé du côté business développement, là, je me suis senti moins légitime par rapport à mes collègues qui continuent à faire de la technique. Donc, quand j'ai discuté avec des consultants, eux m'assimilaient plutôt à un commercial. Et moi, je n'étais pas vraiment commercial, puisque j'emmenais l'ingénierie dans la construction des offres. Ouais. Mais ça restait de l'ingénierie. Mais c'est de l'ingénierie orientée pour faire du business, pas forcément orientée pour implémenter ou installer des technologies. Mais du coup, dans cette phase-là, oui, effectivement, il a pu m'arriver de ne pas me sentir légitime. Mais avec le recul et avec l'expérience, je me suis relégitimé et là, j'ai mûri dans ma réflexion. Et aujourd'hui, je me considère d'autant plus ingénieur que j'ai cette capacité à embrasser à 360 degrés plein de problématiques, à digérer une quantité phénoménale d'informations quotidiennes qu'on apprend à faire dans nos études. Puisque quand on est dans un cycle d'ingénieur, on a... 2 ou 3 dizaines de matières à étudier. Il y en a où on passe 8 heures dans l'année et puis en 8 heures, on a un condensé de quelques notions qu'on doit savoir et qu'on n'utilisera peut-être plus jamais dans sa carrière. Mais ce sont des informations qu'on digère. Et ça, au quotidien, en tant qu'ingénieur, je pense que je suis légitime dans ce mot, dans ce terme d'ingénieur parce que j'ai cette capacité à brasser à 360 degrés tout un tas de problématiques compliquées.
Ok. Eh ben, tu sais quoi, ça fait la transition parfaite. Donc, cette fois, avec la question phare du podcast. Ce qui est marrant, c'est que là, tu as parlé d'un moment où tu ne te sentais pas légitime parce que c'était plus du commercial, mais en fait, un petit peu quand même, au final, en tant qu'ingénieur. Alors, du coup, si je reprends tout ce que tu as dit, c'est quoi pour toi la définition du mot ingénieur ?
Alors, la définition, donc, il n'y en a pas une, bien sûr. Ouais. Mais on peut dire quelle est la caractéristique un peu commune à tous les ingénieurs ? C'est le côté analytique. Donc, un ingénieur, quelque part, c'est quelqu'un qui va être appelé pour comprendre, pour analyser. C'est en tout cas ma définition. C'est pas un exécutant. C'est pas quelqu'un qui applique simplement des process ou qui exécute des tâches. C'est quelqu'un dont on attend qu'il comprenne ce qu'il fait, qu'il soit capable de détecter ce qui dysfonctionne ou de potentialiser ce qui pourrait amener du plus, amener de la valeur ajoutée. Et c'est ce côté analytique permet aux décideurs de prendre des décisions éclairées. Donc, un ingénieur, c'est aussi quelqu'un qui contribue à éclairer la compréhension ou la décision des gens qui prennent les décisions. Alors, des fois, les ingénieurs sont en situation de décider, puisqu'il y a des ingénieurs qui font des carrières qui les amènent vers des postes de management et de décision. Mais quelque part, c'est ce côté analytique et ce côté compréhension qui fait la distinction d'un ingénieur. Donc, qu'on va retrouver, par exemple, dans les fonctions de conception. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui comprend un besoin, qui analyse une expression de besoin, qui est capable de concevoir une solution, un produit, une offre de service qui répond à ce besoin. Et c'est quelqu'un qui va aussi l'installer. Mais l'installer, ce n'est pas simplement faire clic-clic, next-next sur un écran. C'est aussi comprendre comment les différents composants de la solution s'emboîtent entre eux et d'arriver à donner du sens et à faire en sorte que cette solution rende le besoin qui a été défini au départ. Et donc l'ingénieur, il est vraiment dans cette notion d'analyser, de comprendre et d'éclairer la décision.
Ok, bah c'est une belle définition, j'aime beaucoup. On va passer doucement à la dernière partie avec des questions un peu plus ouvertes. Aujourd'hui, donc, quel lien tu pourrais faire entre ta formation que tu as eue à l'INSA et ton métier d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui te sert le plus? Qu'est-ce que tu as retenu le plus de l'INSA? Quels sont les éléments où aujourd'hui tu te dis, ah oui, bah heureusement que j'ai vu ça parce que c'est vachement utile, quoi.
Alors, au niveau du cursus, c'est-à-dire du contenu pédagogique, pas grand-chose. Enfin, pour être honnête, j'ai quitté l'INSA en 94, de l'eau a coulé sous les ponts. Au début, j'ai pu utiliser quelques notions de programmation, de microcontrôleur, puisque j'ai travaillé dans le système embarqué. Et ça, c'est les 2, 3 premières années. Et puis, assez rapidement, je me suis éloigné de mes connaissances INSA parce que j'ai dû apprendre des nouvelles connaissances, d'abord techniques et ensuite business. Je pense que ce que je retiens surtout de l'INSA, c'est la dimension humaniste et la dimension sociale. C'est que l'INSA, c'est un gros campus. Je parle surtout de Lyon. C'est un gros campus. La plupart des étudiants sont logés sur place, donc il y a une vie communautaire. Et c'est vrai que quand on arrive à l'INSA, on sort souvent de sa famille. On arrive quelque part. C'est la première fois où on a une vie communautaire avec des amis qu'on se crée sur place, avec des activités qu'on fait avec d'autres, des activités soit dans le cadre pédagogique, donc les projets de fin d'études, des choses comme ça, ou des activités ludiques à travers l'ensemble des associations qui sont présentes sur le campus. Et tout ça, ça forge finalement un état d'esprit qui permet, quand on arrive dans une entreprise, rapidement de tisser des liens, de s'inscrire au-delà de sa mission au quotidien, de s'inscrire dans l'entreprise, c'est-à-dire dans l'organisation. Comprendre comment il fonctionne, tisser des liens avec des gens qui ne sont pas forcément dans sa ligne hiérarchique directe, qui ne sont pas des collègues immédiats dans la même équipe, mais avec qui on va être amené à travailler ensemble parce que ben, on a pris cette habitude sur le campus de l'INSA.
Cette dimension sociale, en fait, liée plus à la vie, à la structure du campus, en fait, que tu as retenu, du coup, au final.
Tout à fait.
Alors, bah, du coup, c'était une de mes questions, tu en as un petit peu parlé. On dit que l'INSA forme des ingénieurs humanistes, tu as parlé de cette notion d'humaniste. Elle t'évoque quoi, toi, cette notion?
Alors,
Est-ce qu'on...
l'ingénieur humaniste, c'est très vague hein, comme sujet, la
Ah
notion
oui?
d'ingénieur humaniste, mais je pense qu'un ingénieur humaniste, c'est un ingénieur qui ne se contente pas, je pense, de ce qu'on lui montre ou de ce qu'on lui demande de faire. C'est quelqu'un qui regarde la dimension sociale plus globale ou sociétale plus globale de son métier, de ses impacts. Et moi, j'ai la chance de travailler dans une boîte qui s'intéresse beaucoup à ces sujets. Aujourd'hui, HPE essaye de valoriser toutes les actions qui sont menées, par exemple avec des organismes de recherche. On a un grand calculateur qu'on a déployé en région parisienne, par exemple, pour accélérer la recherche autour de l'intelligence artificielle appliquée à la médecine ou à tout un tas d'autres domaines sociaux. On a tout un tas d'activités caritatives. On a une initiative autour de l'écologie. HPE a une filiale qui recycle énormément des matériels, y compris des matériels non HP, parce que ça fait partie aussi de notre dimension sociétale. Et nous, à titre personnel, on est encouragés à continuer à se cultiver. Donc, on a une demi-journée qui est accordée par l'employeur tous les mois pour faire du sport, pour fréquenter des lieux culturels, se reposer, etc. Donc, toutes ces initiatives-là font partie de la dimension humaniste d'un ingénieur. Toutes les discussions, par exemple, en ce moment, autour du télétravail et du bien-être. Je vais te donner un exemple. Moi, dans ma carrière, j'ai quand même été très souvent amené à aller à Paris. J'allais à Paris toutes les semaines, à une époque, et à tel point que les Parisiens pensaient que j'étais un Parisien. Ils avaient oublié que j'habitais à Lyon. Okay. Et là, avec le Covid, je me suis surpris dans des réunions avec des Parisiens qui étaient chez eux à la maison, donc ils n'étaient pas au bureau. Et finalement, on était à égalité. Parce que j'étais en région, eux, ils étaient à Paris, mais ils n'étaient pas au siège. Et finalement, il n'y avait pas de notion de le siège social est à Paris et toi, tu es délocalisé dans une agence de province, en guillemets. Il n'y avait pas cette notion-là. Parce qu'on a un accord de télétravail, indépendamment du Covid, un accord de télétravail qui permet aux gens de travailler chez eux et donc de mieux s'occuper peut-être de leurs affaires familiales sans impacter leur boulot, ou plutôt l'inverse, de continuer à être performant au boulot sans impacter leur qualité de vie familiale par des transports interminables, etc. Et donc, toute cette dimension humaniste, elle est importante. Et je pense que cette dimension, elle vient par les ingénieurs, puisque ce sont eux, quelque part, qui analysent la société, qui analysent le métier et qui vont impulser ce changement. On voit beaucoup de jeunes ingénieurs, par exemple, dans les entretiens d'embauche, ils demandent quelle est la part de télétravail. Et je pense que ce n'est pas juste du confort, le télétravail. C'est aussi parce que ça permet... Moi, j'ai un collègue, jeune ingénieur, jeune papa, qui est parti s'installer à 150 km de l'agence de Lyon parce que le télétravail lui permet d'être aussi performant à 150 km de Lyon qu'à Lyon.
Oui, tant que le job est fait et qu'on arrive à répondre aux besoins du client, au final, qu'est-ce que je voulais te demander ? Oui, tu parlais justement d'impact environnemental et de recyclage au niveau d'HPE. Est-ce que toi, tu vois de manière directe l'impact de ton travail, que ce soit sur l'environnement, sur les individus, sur la société d'aujourd'hui ou de demain ? Est-ce que tu as une vision sur ce que tu fais, entre ce que tu fais au quotidien et les résultats ? Comment ça se passe ?
Voilà. Alors, pas toujours. Je dois t'avouer, parce que c'est vrai que finalement on est un maillon de la chaîne, dans la chaîne de valeur, dans la chaîne de valeur de l'informatique et de notre informatique à nous chez HPE. Moi, je ne suis qu'un maillon quelque part. Donc moi, je vois bien l'impact global d'une entreprise comme HP ou comme certains de ses concurrents sur l'environnement, impact positif ou négatif d'ailleurs. Je vais te citer un exemple. On est en train de déployer une machine qui consomme énormément de puissance en puissance électrique et qui dissipe énormément de calories pour le refroidissement. Bon ben là, on est dans des environnements où chaque fois qu'on répond à un appel d'offres, on doit justifier de la consommation électrique. Et on est comparé non seulement sur la performance de la machine, mais également sur sa capacité à consommer un peu moins d'électricité que les machines concurrentes. Et sur le refroidissement, il ne s'agit pas de refroidir de l'eau pour pouvoir ensuite refroidir les machines, puisque là, on parle d'une machine, par exemple, qui est refroidie à l'eau. Donc, on a un circuit d'eau qui circule dans les radiateurs sur les processeurs et qui refroidit les processeurs. Mais ce n'est pas de l'eau froide, ce n'est pas de l'eau glacée qui vient refroidir les processeurs, c'est de l'eau à température ambiante qui est un peu réchauffée par la machine qui tourne, et ça évite de dépenser d'énergie pour refroidir de l'eau pour ensuite refroidir des CPU. Quoi. On prend de l'eau à température ambiante, c'est de l'eau qui est en circuit fermé, et donc, quelque part, cet échange thermique-là est vertueux. Il a un impact forcément sur la planète, mais un peu moindre qu'il y a peut-être 15 ans où on aurait été chercher des climatiseurs ou de l'eau froide. Donc, ces impacts-là, je les vois sur le collectif et sur tout ce qu'on essaie d'emmener collectivement. Après, moi, à mon niveau quotidien, oui, mon principal impact, c'est les déplacements en voiture. Aujourd'hui, l'immense majorité de mes réunions sont en ligne. À une époque, je sautais facilement dans ma voiture pour aller voir un client à 80 km. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Je le fais quand il y a besoin de se voir pour socialiser, mais moins souvent. Par contre, je fais beaucoup de réunions par téléphone.
D'accord. Donc oui, il y a quand même une réduction depuis...
grâce à ça, en fait.
Oui.
Ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Et je vais te laisser peut-être l'occasion de laisser un dernier message, si tu le souhaites, aux professeurs, aux ingénieurs, aux étudiants qui nous écoutent. Oui. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais leur faire passer pour cet épisode?
Bon, un message, moi j'ai envie de dire, finalement, ce qui fait la qualité d'un métier, c'est l'intérêt qu'on y trouve à titre personnel. Il ne faut jamais embrasser un métier ou une carrière professionnelle en ayant du mal à se lever le matin. Il faut le faire, il faut choisir des filières dans lesquelles on se fait plaisir au quotidien, dans lesquelles on aime bien résoudre des problèmes. Ça, c'est aussi une caractéristique du métier d'ingénieur. Et finalement, c'est ça qui va faire toute la passion du métier d'ingénieur, à l'inverse d'un métier où simplement on ferait ça de manière alimentaire, sans trop se poser de questions. Nous, les ingénieurs, on a la chance de pouvoir se poser des questions parce que notre formation, elle est liée à cette notion d'analyse, d'abstraction, de logique, d'interaction entre les différentes personnes. Donc, il faut se poser des questions au quotidien. Il faut aimer faire ça pour pouvoir se lever tous les matins, heureux d'aller au travail.
Se lever tous les matins en étant heureux d'aller au travail. Je suis bien d'accord avec toi, Coach Joe. Quelle belle phrase de conclusion. Merci beaucoup pour cet épisode. Mais d'ailleurs, en parlant de se poser des questions, moi, il y en a une qui revient régulièrement. En tant qu'ingénieur, on va faire partie de groupes assez conséquents. Et il y a une question qui revient à chaque fois, c'est est-ce que je vais réussir à faire bouger les choses? Notamment pour l'environnement, c'est vrai que c'est une question qui revient de plus en plus. Et je me demande, est-ce que c'est possible de faire bouger les choses dans certaines entreprises? Eh bien, sachez que pour ça, il existe un type d'ingénieur en particulier. L'ingénieur RSE. Mais pour en apprendre un peu plus, vous le savez, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode dans un prochain podcast.